Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Vous avez pu voir ces dernières semaines, bon, il y a eu des petits changements, il y a eu des nouveaux intervenants, des duos pour ces lives. Et aujourd'hui, ben, ce n'est pas un médecin que vous avez en face de vous, c'est une infirmière. Donc, je m'appelle Aurore et je suis infirmière donc, dans le service d'endocrinologie du docteur Bénichou. On est ensemble pour parler pendant une demi-heure du passage à l'insuline pour que cette étape de votre vie de diabétique ne se transforme pas en une épreuve. Voilà, donc pour commencer, je vais répondre à la question d'Ascoleina Traoré qui me demande quelle est l'importance de l'insuline pour le diabète et quels sont ses inconvénients. Donc c'est une bonne question d'introduction en fait pour rappeler le rôle de l'insuline. Donc l'insuline c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui est utile en fait pour faire baisser le sucre dans le sang, donc pour faire baisser la glycémie. Quand on n'est pas diabétique, le pancréas sécrète naturellement cette hormone. Quand on a un diabète de type 1, le pancréas en fait n'est plus en capacité de sécréter cette hormone, donc l'insuline, et on est obligé de traiter le diabète par des injections d'insuline, voilà, en stylo ou par pompe. Quand on a un diabète de type 2, le pancréas sécrète toujours de l'insuline, mais elle n'est pas suffisante ou pas de bonne qualité. Et le corps a une résistance à l'insuline, souvent liée au poids, et donc il a besoin de plus d'insuline pour fonctionner. Donc ça, c'est le diabète de type 2, et quand on a les injections d'insuline. Les principaux inconvénients de l'insuline, ben, le premier que tout diabétique connaît, je pense, c'est les hypoglycémies. Si la dose elle est trop importante, ou si le repas, pour le coup, il a été trop faible en glucides, ou s'il y a eu une activité qui n'a pas été compensée par du sucre, effectivement, l'insuline et en particulier la rapide et la lente peuvent faire baisser les glycémies. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est l'inconvénient plutôt technique. Il va y avoir effectivement un apprentissage de la piqûre d'insuline. Il va falloir se piquer une fois, deux fois ou quatre fois par jour. Et effectivement, c'est plus contraignant que de prendre des cachets. En même temps aussi, il va falloir augmenter le nombre de glycémies qu'il va falloir faire par jour, donc de surveillance de la glycémie. Quand on a des cachets, on peut contrôler la glycémie trois fois par semaine. Donc, vous prenez une journée, vous contrôlez à trois horaires différents. Et c'est bien de faire des contrôles deux heures après les repas pour pouvoir voir en fait l'efficacité de vos injections de rapide. Et de la même façon, ces injections d'insuline, il faut aussi penser qu'il faut les adapter en fonction de vos besoins, de ce que vous mangez pour les rapides, de vos résultats des glycémies, de votre activité. Donc ça nécessite également une éducation pour pouvoir en fait adapter au mieux ces insulines et éviter de faire des hypoglycémies. Une deuxième question donc d'Annick qui me demande quelle est la différence entre le traitement par pompe et les stylos à insuline et est-ce qu'il y a plusieurs types d'insuline. Alors on va commencer par sa deuxième question. Effectivement, donc j'en ai parlé un petit peu avant. Il y a plusieurs types d'insulines, donc on différencie les insulines qui sont dites lentes, qui agissent sur 24 heures, voire pour certaines ultra lentes un petit peu plus, et qui elles couvrent en fait vos glycémies en dehors des repas. Et ensuite vous avez les insulines dites rapides ou ultra rapides, qui elles sont injectées au moment du repas, et qui elles couvrent en fait les glucides que vous allez manger au moment du repas, vraiment, que ça. Et ensuite il existe encore des insulines qu'on utilise un petit peu, voilà. Et les différences donc entre le traitement par pompe et par stylo, donc c'est quand on a une pompe à insuline, en fait, on a une diffusion de l'insuline qui se fait en continu. Vous avez la pompe sur vous, dedans il y a ce qu'on appelle un débit de base, et donc la diffusion se fait en continu. Ça, c'est ce qui remplace en fait la dose d'insuline lente, donc la piqûre qu'on fait une fois par jour. Et au moment des repas, on va faire des bolus qui remplacent en fait les injections rapides. L'avantage de la pompe, c'est qu'en fait elle permet de se caler un petit peu plus aux besoins physiologiques de la personne. Par exemple, vous pouvez très bien avoir des besoins plus importants la journée et moins importants la nuit. Si vous faites votre piqûre de lente le soir, elle va agir de la même façon pendant 24 heures, alors que vos besoins ne sont pas les mêmes. Avec la pompe, vous pouvez adapter le débit, mettre un débit plus fort la journée et moins fort la nuit pour prévenir les hypoglycémies. En plus de ça, avec la pompe, vous pouvez aussi adapter le débit de façon ponctuelle. C'est-à-dire, vous faites une activité, vous pouvez baisser votre débit basal, voire complètement arrêter la diffusion de l'insuline. Alors qu'avec les stylos à insuline, une fois que vous êtes piqué, l'insuline est dans votre corps, elle est dans votre corps. On ne peut plus l'arrêter. Donc, ça permet effectivement de s'adapter un peu plus facilement à votre vie. Et de la même façon, si vous faites une hypoglycémie, vous pouvez arrêter la pompe et donc arrêter la diffusion d'insuline, ce qui permet de ne pas aggraver l'hypoglycémie, de remonter plus vite et souvent de se resucrer de façon moins importante. Une troisième question, donc une question de Michel qui me demande « Peut-on faire l'insuline lente à n'importe quel moment de la journée ? J'ai des horaires décalés. » Alors, l'insuline lente, effectivement, les médecins vont vous préconiser de la faire plutôt le soir ou plutôt le matin en fonction de votre âge, en fonction des comorbidités ou ce genre de choses. Il vaut mieux respecter globalement l'horaire que vous donne votre médecin. Mais après, ça n'a pas d'importance si l'insuline elle est faite à 18h ou à 19h ou à 20h ou à 3h de l'après-midi. C'est pas le top, mais c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est de le faire à un horaire fixe. C'est-à-dire, si le lundi, vous le faites à 18h, ne le faites pas le mardi à 23h. Parce que sinon, de 18h à 23h, vous serez plus couvert par cette insuline. Donc l'inconvénient quand on a des horaires décalés, donc je ne sais pas si cette personne travaille dans un hôpital par exemple, et qu'effectivement un jour elle finit à 2h l'après-midi et deux jours après elle finit à 9h30 du soir, il faut trouver un compromis et essayer de faire ça lente le plus tard en gros quand vous rentrez à la maison. Donc ça veut dire que les jours où vous ne travaillez pas le soir, il faut quand même faire les injections d'insuline par exemple à 22h quand vous rentrez. On peut décaler d'une demi-heure mais il ne faut pas décaler de plus en fait à chaque fois. Une autre question, alors, de Monsieur M. Ahmed Ferrahi. Alors, désolé si j'écorche les noms, je m'excuse. Faut-il prendre l'insuline avant ou après les repas? Et peut-on prendre de l'insuline sans manger juste après? Alors ça va dépendre de votre type d'insuline. Si vous avez que de l'insuline lente, donc celle-là, elle ne dépend pas des repas. Donc vous pouvez la faire avant les repas, après les repas, même si vous ne mangez pas, c'est pas gênant. Et même, j'ai envie de dire, si vous ne mangez pas de la journée, si vous êtes à jeun ou si vous êtes malade, il faut quand même continuer à faire cette injection d'insuline, c'est important, parce que c'est ce qu'on appelle l'insuline pour vivre. Par contre, si vous avez des rapides, là oui, c'est important de la faire alors juste avant le repas ou en début de repas. En gros, il faut penser que l'insuline, elle agit entre 5 et 10 minutes. Elle met 5 à 10 minutes pour passer dans votre sang et on voit les premiers effets à peu près au bout d'une demi-heure. Donc, il faut que ça corresponde au moment de votre repas. Évidemment, il n'est pas question dans le genre « je vais manger au restaurant, je fais mes insulines avant, comme ça, ça passe bien ». Non, si vous faites vos insulines avant de partir au restaurant, le temps du trajet, le temps d'arriver au restaurant, de montrer votre passe sanitaire, de prendre la commande, etc. Il y a des chances que vous soyez en hypoglycémie avant que votre premier plat il arrive sur la table. Donc, dans ce cas-là, dans les cas où vous allez chez des amis ou au restaurant, je sais que c'est contraignant, que c'est sur la table pour être sûr de ne pas faire des hypoglycémies. Ensuite, alors j'ai deux personnes qui me demandent à peu près la même chose, donc j'ai regroupé les deux questions. Donc j'ai Pierre Bénichou qui me pose la question et monsieur Rostom Bacha qui me demande à partir de quelle valeur de l'hémoglobine liquée passe-t-on à l'insuline. Et bien ça, je suis désolée, mais c'est pas en fonction d'une valeur d'hémoglobine liquée. C'est pas je suis à 9%. Je suis pas bon, je suis obligée de passer à l'insuline. Ça ne marche pas comme ça. Dans un premier temps, si le diabète... Alors, on parle là pour le coup, on est sûr de revoir s'il n'y a pas des erreurs, des grignotages et des choses qu'on peut améliorer. Augmenter l'activité physique si on peut. Et ensuite, votre médecin, il verra avec vous le traitement pour voir s'il n'y a pas d'autres comprimés à ajouter pour intensifier déjà ce traitement. Si vraiment on voit que vous êtes au maximum du traitement, que la diététique elle est parfaite et que vous faites de l'activité... C'est probablement que votre pancréas, en fait, il arrive un peu en bout de course. Il arrive à ce qu'on appelle, vous arrivez à être ce qu'on appelle en insulinopénie. C'est-à-dire, vous allez manquer d'insuline. Et dans ces cas-là, oui, on va être obligé de passer avec une injection d'insuline. Par contre, il y a des cas où, malheureusement, quelle que soit l'hémoglobine liquée, on est obligé d'arrêter les cachets et de passer à l'insuline. C'est quand on a des insuffisances rénales qui sont sévères ou des insuffisances cardiaques ou hépatiques aussi également qui sont sévères. parce que les cachets étant éliminés par le rein ou par le foie, on ne peut pas les donner si ça va aggraver en gros le problème. Et au niveau cardiaque, c'est pareil, par exemple la metformine, si l'insuffisance cardiaque est trop importante, elle est contre-indiquée également. Donc dans ce cas-là, malgré que l'équilibre glycémique soit bien avec les cachets, on va être obligé de basculer avec l'insuline. Et un dernier cas où on est obligé de passer à l'insuline, c'est les femmes enceintes. Donc que ce soit pour un diabète gestationnel ou pour un diabète de type 2 qui est enceinte, malgré tout en hyperglycémie, on va être obligé de passer à l'insuline parce que les cachets sont complètement contre-indiqués pendant la grossesse. Globalement, voilà. Une autre question de Lofty Safarbati. Est-ce que le fait d'introduire l'insuline précocement fait préserver le capital insulinique pancréatique, même si nous ne sommes pas arrivés au stade d'insulino-nécessité? Je résume. En gros, si j'ai bien compris, on me demande si je mets de l'insuline alors que j'en ai pas réellement besoin, est-ce que ça va préserver mon capital? Est-ce que je vais garder mon pancréas en fait fonctionnel plus longtemps? Eh bien malheureusement, non. J'ai demandé à mes médecins, confirmation, et effectivement, ça ne marche pas comme ça. Si on vous met de l'insuline, alors votre pancréas il fonctionne toujours, vous risquez plus de faire des hypoglycémies, mais vous garderez pas en fait votre pancréas fonctionnel plus longtemps, malheureusement. Ensuite, j'ai Annick qui me demande « Quels sont vos conseils pour accompagner son proche quand il passe sous stylo à insuline ?» Alors, effectivement, souvent, on parle beaucoup des patients, des personnes qui sont diabétiques, qui passent à l'insuline, comment eux, ils doivent gérer, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont de la famille, ils ont des conjoints et que souvent, eux aussi, se posent beaucoup de questions. Donc, moi, j'invite fortement, en fait, les familles, les conjoints, à venir aux ateliers, quand on explique aux patients, en fait, comment on se pique, comment on adapte les doses, etc. Il faut qu'ils viennent aussi, pour qu'ils viennent entendre aussi les messages. Parce que, ben, quand on rentre à la maison, quand on est avec son stylo à insuline tout seul, là, ben, des fois, on a des questions et on ne s'en rappelle plus. Et c'est bien, des fois, d'avoir deux cerveaux au lieu d'un. Donc, il faut après, donc, que la famille, effectivement, accompagne le conjoint ou la partenaire en fait pour l'adaptation des doses, pour l'aider à se piquer, etc. Mais il faut aussi faire attention à que l'accompagnant, le proche, ne fasse pas à la place de la personne. Sauf bien sûr si monsieur dit « non, non, moi je ne pourrais jamais me piquer, c'est ma femme qui le fera ». Bon, là, ça peut s'entendre qu'au départ, ok. Après, il faut tester quand même parce qu'en général, les gens, ils peuvent y arriver à se piquer quand même malgré tout. Mais dans ce cas-là, ok. Mais sinon, il faut faire attention à ce que les proches ne prennent pas la place des personnes qui sont diabétiques. Et il ne faut pas culpabiliser non plus. « Ah, tu ne fais pas bien. Ah, tu aurais dû faire ça. Ah, je t'avais dit de faire comme ça, c'est mieux. Ah, franchement, tu ne m'as pas écouté. » Non. Je sais que c'est facile à dire parce que quand on est en couple ou en famille, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais il faut essayer au maximum de rester dans la bienveillance, d'encourager la personne à faire de son mieux. Et voilà, et essayer au maximum de ne pas culpabiliser. Par contre, ce qui est important pour les proches, c'est de savoir repérer les signes d'hypoglycémie en fait de la personne qui est diabétique. Parce que bien souvent, les gens ils sont habitués à faire des hypos et au bout d'un certain temps, ils ne le ressentent plus. Mais par contre, souvent, l'entourage le voit. On voit bien que, ouh, d'un coup, tu es bien pâle. Ouh, ouh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu changes de comportement, c'est pas normal. Et va contrôler ta glycémie. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut connaître, en fait, les signes d'hypoglycémie du conjoint et pouvoir, après, effectivement, l'aider par rapport à ça. Et un dernier petit point aussi, qui là, pour le coup, est vraiment pour l'entourage, c'est l'injection de glucagon. Alors, le glucagon, c'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc quand on est en hypo, c'est une injection en fait que la famille doit faire pour faire remonter les glycémies quand la personne diabétique elle est plus capable en gros de manger, donc elle est plus capable de se resucrer toute seule. Donc effectivement, nous aussi on éduque après les familles de gens qui sont sous insuline, en général c'est plutôt avec de la lente et des rapides ou sous pompe, pour faire cette injection de glucagon pour si jamais vraiment un jour ben, la personne elle n'est pas capable de manger, qu'elle puisse évidemment faire remonter les glycémies avant d'appeler les pompiers, etc. Donc, je n'ai strictement aucune idée du temps parce que je ne sais pas trop quand est-ce qu'on a commencé. Donc, j'ai fini mes questions que j'ai trouvées, en fait, voilà, effectivement, dans vos commentaires. Et donc, je vais passer aux vos questions en direct. Alors, on me demande, puis-je retarder l'insuline de nuit au-delà de 23 heures? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, l'insuline de nuit, je suppose que c'est l'insuline lente, donc oui, vous pouvez la décaler au-delà de 23 heures. si ben, vous finissez de travailler à 22h et que vous ne pouvez pas faire votre injection d'insuline à la maison, enfin avant d'arriver à la maison, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est vraiment de garder un horaire fixe tous les jours. Donc n'oubliez pas, si un jour vous le faites à 23h, le lendemain vous ne le faites pas à 20h. Il faut garder le même horaire. J'ai Laura qui me demande comment éviter les bleus générés par les piqûres. Je ne dirais pas que ma cadre écrit mal, désolée. Donc, les bleus générés par les piqûres, il y a plusieurs choses. Des fois, ben, tu n'as pas de chance, entre guillemets. Quand vous piquez, vous tombez sur un petit capillaire et effectivement, ça fait un petit hématome. Donc, dans ce cas-là, surtout quand vous voyez que ça saigne, ben, vous pressez avec un coton pour faire compression, pour éviter que ça fasse un bleu derrière. Et des fois, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on se pique avec une aiguille qui est trop longue. Donc, de plus en plus, on favorise en fait les aiguilles de 4 mm, quelle que soit la dose d'insuline, quel que soit le produit, quelle que soit la morphologie de la personne. Parce que les 4 mm, elles vont moins profondément dans le corps et donc elles ont moins de risque de traumatiser la peau et de faire des bleus. Autre chose aussi, le stylo à insuline, ce n'est pas une fléchette, donc il ne faut pas y aller trop fort quand on pique, mais il ne faut pas y aller trop doucement non plus. Quand on y va trop doucement, ça lèse aussi. Et quand on y va trop fort ou trop profondément, effectivement, on fait des bleus parce que ben, on se fait mal en fait. Donc il faut un juste milieu. Alors, une question d'Asko Zenatra aurait. Je suis diabétique depuis 2014, ma glycémie ne descend pas malgré l'insuline. Alors, je ne sais pas quel type d'insuline déjà vous avez. Donc c'est souvent une question de dosage, c'est-à-dire qu'il faut adapter les doses. Si la glycémie elle descend pas, il y a plusieurs choses. Soit effectivement, c'est que les dosages ils sont pas adaptés par rapport à ce que vous mangez, en particulier pour les rapides. Donc c'est-à-dire qu'il faut augmenter vos doses de rapides si vos glycémies elles sont élevées en dehors des repas, après les repas. Mais par contre, il faut penser à augmenter votre insuline lente si votre glycémie elle est trop élevée le matin au réveil. Donc c'est comme ça qu'on adapte les doses. Mais globalement, effectivement, si votre glycémie ne descend pas malgré les insulines, c'est qu'il faut augmenter les doses. Donc ça, je vous invite à aller rencontrer votre médecin traitant ou votre endocrinologue pour rediscuter des doses avec lui. Mohamed me demande, au début. Alors, un diabète de type 2, il n'est pas obligé un jour dans sa vie de passer à l'insuline. Il y a des diabétiques qui vivent toute leur vie sous cachet et ça se passe bien. En général, quand on commence sous cachet, moins on demande au pancréas de travailler, en gros, plus il dure longtemps. Il faut vous dire que le pancréas, il devient un peu feignant, qu'il passe à mi-temps, donc il ne faut pas trop lui en demander. Et pour ne pas trop lui en demander, ce qu'il faut, ben, c'est éviter de manger des produits trop sucrés, de grignoter. Quand vous mangez équilibré et que vous faites de l'activité physique, vous demandez au pancréas de faire le minimum syndical, entre guillemets. Donc les cachets peuvent suffire. On peut toujours, pareil, intensifier les cachets si ça ne suffit pas. Mais pas obligatoirement de passer à l'insuline. Donc voilà. Et y a-t-il un type d'insuline au début? Alors, en général, quand on a un diabète de type 2, on commence par une introduction d'insuline lente. Donc c'est l'insuline qu'on fait une fois par jour, en général le soir, parce que les premières glycémies qui pêchent, entre guillemets, c'est la glycémie du matin au réveil. C'est-à-dire que ben, même si vous ne mangez pas, votre glycémie, elle va être élevée. Vous allez arriver le matin à plus d'un gramme 30. Et ça, ce n'est pas votre faute. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, toute l'activité que vous voudrez, vous n'arriverez pas à faire baisser ça. Et ça, c'est parce que le pancréas, il ne sécrète pas assez d'insuline. Et dans ce cas-là, effectivement, on est obligé de commencer par une insuline lente. Alors, Najat me demande, quand est-ce qu'on passe à l'insuline? Alors, j'ai un petit peu répondu à ça, effectivement, au début de la conférence. Donc, on passe à l'insuline quand le pancréas n'en sécrète plus assez. Donc dans ce cas-là, on commence par la lente et si ça ne suffit pas, on rajoute les rapides au moment des repas. On passe à l'insuline quand on a une insuffisance rénale très sévère ou une insuffisance cardiaque très sévère ou une insuffisance hépatique très sévère qui contre-indique donc la prise des cachets, des comprimés. Ou alors, effectivement, si on est enceinte et que ben, les cachets ils sont contre-indiqués. Voilà. Mohamed me demande... Quelles analyses de sang indiquent que l'on doit passer à l'insuline? Alors, il n'y a aucune analyse de sang qui dit qu'il faut qu'on passe à l'insuline. C'est plutôt, en fait, on va regarder vos glycémies sur la journée. Vous regardez quand est-ce que les glycémies sont élevées. Et toujours pareil, on fait une étude l'activité physique est toujours pareil. On essaie de voir ce qu'on peut faire au mieux pour adapter déjà ça, pour voir s'il y a des efforts qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais il n'y a rien au niveau sanguin, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher dans le sang s'il y a un manque d'insuline, par exemple. Il n'y a pas, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est pas en fonction de l'hémoglobine liquée. L'hémoglobine liquée, quand elle est élevée, elle va nous dire effectivement qu'il faut faire quelque chose. Mais ce quelque chose, ça ne va pas forcément être de suite de mettre de l'insuline. Je le redis, on reprend l'insuline, on commence l'insuline que si vraiment on n'a pas d'autre choix, qu'on en a que vous avez besoin en fait d'insuline. Donc ce n'est pas en fonction de l'analyse de sang, sauf, toujours pareil, si c'est parce que c'est les reins qui sont trop fatigués, oui, ça effectivement on le voit dans le sang, s'il y a une analyse qui montre que vous avez une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique sévère, là on va être obligé. Alors, monsieur Braham Abdeslan qui me demande quelle différence entre les insulines lentes. Alors, il y a différentes sortes d'insulines lentes, il y a ce qu'on appelle les lentes de cours et les ultra lentes. Les ultra lentes, c'est des entre 40 et 48 heures, on va dire. Alors, pour vous, ça ne change strictement rien, vous faites votre injection tous les jours quand même, mais c'est parce que chez certaines personnes, quand on fait une insuline lente, genre Lantus ou Abazaglar, la durée d'action, elle n'est pas vraiment de 24 heures et en fait, elle s'épuise en fin de journée. Donc, pour compenser le fait que, en gros, votre lente, elle s'arrête de travailler à 4 heures l'après-midi, on met des ultra-lentes qui, elles, pour le coup, vous couvriront mieux en fin de journée. Ensuite, il existait, mais on s'en sort beaucoup moins, des semi-lentes, des insulines qui duraient entre 12 et 16 heures, comme ça. Mais bon, on s'en sert beaucoup moins. Anan nous demande, je suis diabétique de type 1. J'ai de la lente le soir. Après les repas, je suis en hyper le soir. Que dois-je faire? Alors, ça, c'est une question d'adaptation des doses. Ça veut dire que la dose d'insuline qui est faite le soir, donc la dose de rapide, elle est insuffisante par rapport au repas. Donc, il y a deux choses. Soit c'est qu'il y a trop à manger dans le repas, mais en général, quand on a un diabète de type 1, c'est plutôt parce qu'on n'a pas adapté la dose d'insuline en fonction du repas. Donc, il faut augmenter la dose d'insuline. Et pour voir si la dose elle est suffisante, il ne faut pas oublier de contrôler la glycémie 2 heures après le repas et de voir si vous êtes dans vos objectifs glycémiques 2 heures après. Donc, en général, on dit, nous, entre l'insuline, elle est bien. Donc, par contre, si vous êtes en hyper plus tard le soir, genre à minuit, 2 heures, 3 heures du matin ou 4 heures du matin, c'est peut-être aussi parce que vous arrivez plus haute le matin et que c'est la lente qu'il faut augmenter. Mais en général, voilà, les hyperglycémies le soir, c'est la rapide qu'il faut adapter. Marianne qui me demande, faut-il passer à l'insuline si on prend des médicaments et quand on est en hyper? Donc on revient en fait un petit peu sur la question de tout à l'heure, effectivement. Donc si on a des médicaments, si on est au maximum des médicaments, qu'on ne peut pas les augmenter plus, effectivement, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on est toujours en hyperglycémie, c'est qu'on a probablement besoin d'insuline. Et dans ce cas-là, effectivement, on passe à l'insuline. Mais toujours pareil, il faut d'abord vérifier qu'au niveau diététique, il n'y a pas d'effort à faire et qu'on ne peut pas augmenter un peu l'activité physique. Bouacha me demande, est-ce que le diabète est héréditaire? Alors, on sort un peu de mon histoire d'insuline là. Mais oui, on dit que le diabète de type 2, alors héréditaire, ce n'est pas toujours le mot qu'on entend. Parce que quand on entend héréditaire, c'est je suis diabétique, mon enfant sera diabétique. C'est pas aussi simple que ça, mais quand on a des parents qui sont diabétiques, on a plus de risques de développer un diabète de type 2. Quand les parents sont diabétiques de type 2, c'est beaucoup, beaucoup moins vrai pour le diabète de type 1. C'est-à-dire si un de vos parents est diabétique de type 1, vous avez très peu de chances de risque de développer un diabète de type 1. Alors que si vos parents ont du diabète de type 2, ou les grands-parents, ou les oncles, les tantes, là, dans ce cas-là, il va falloir vous surveiller plus régulièrement à partir du 40 ans à peu près, pour vérifier effectivement que vous ne développez pas un diabète également. Alors, Abdelahouab me demande, le poids a-t-il un lien avec le diabète de type 2? Alors, oui. Parce que le poids, en fait, plus on a de poids, plus on a ce qu'on appelle une insulino-résistance. Ça veut dire que notre corps, il va avoir besoin de plus d'insuline pour fonctionner de la même manière. Et qui dit qu'il a besoin de plus d'insuline, dit que le pancréas doit travailler plus. Or, quand on est diabétique, eh bien, le pancréas, il n'a pas envie de travailler plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est à mi-temps, ou à trois quarts temps, à la limite. Mais donc, si on a du poids en plus, eh bien, on va lui demander de travailler des heures sup. Conclusion, en fait, il vaut mieux perdre du poids. Si vous perdez du poids, vous allez perdre en gros cette insulino-résistance. Et parfois, on met des gens sous insuline ils perdent du poids. Et quand ils ont perdu du poids, ben, ils n'ont plus besoin de cette insuline parce que leur pancréas arrive à générer suffisamment d'insuline pour maintenir la glycémie dans les objectifs. Donc effectivement, le poids aussi, ça va être un facteur de risque pour développer un diabète de type 2, pour les mêmes raisons. Et Doc Mary me demande, la pompe à insuline est-elle à le vulgariser? Donc je suppose qu'on me demande si, en gros, on peut mettre la pompe à insuline au maximum de gens possible et à la diffuser plus largement, peut-être. Donc, de plus en plus, elle se fait. Au début, la pompe à insuline, c'était réservée pour les diabétiques de type 1. Ça a été élargi aux diabétiques de type 2 sous basal bolus, donc avec des lentes et des rapides. C'est maintenant élargi aux femmes enceintes également qui, au lieu d'avoir des piqûres d'insuline, ont le droit d'avoir des pompes pendant la grossesse. Les diabétiques de type 2 qui ont le droit d'avoir des pompes effectivement pendant la grossesse. Et c'est élargi même maintenant aux gens qui ont juste une basale, donc juste une lente. On peut leur mettre une pompe avec juste un débit basal et on ne leur fait pas de bolus. Donc chez nous en France, en tout cas, la pompe elle est remboursée par la sécurité sociale pour quelle que soit la typologie de patient. Donc effectivement, la pompe, elle est plus facile de diffusion que ce qu'elle était avant. Donc une autre question, on me demande si l'insuline fait grossir. Alors ça, c'est une question qu'on a souvent dans le service, parce que les gens, quand on les met sous insuline, c'est la première chose dont ils ont peur. C'est « Ah non, ça va me faire prendre du poids, j'en veux pas ». Alors, il faut se dire souvent, quand on manque d'insuline, on perd du poids. Parce qu'en fait, quand on a une glycémie qui est élevée, au-dessus d'un gramme 80, le sucre, il est éliminé par les urines. Donc en général, c'est pour ça que les gens, ils me disent « Ah oui, c'est vrai, je buvais beaucoup et j'allais beaucoup souvent aux toilettes ». Oui, c'est parce que le corps, en fait, il élimine le sucre par les urines. Donc, comme le sucre, il est plus stocké, il est éliminé, on perd du poids. Donc forcément, quand on va mettre de l'insuline, ben, l'insuline qui, elle régule les glycémies, donc on arrête de perdre du sucre par les urines, donc tout ce qu'on mange, ça reste, donc forcément, on prend du poids. Et en plus, le rôle de l'insuline aussi, c'est de stocker le sucre. Donc, on va prendre aussi du poids pour stocker, de stockage en fait. Alors après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'on en a certaines aussi qui s'y amusent, qui, quand elles veulent perdre 2 ou 3 kilos, se mettent en hyperglycémie, arrêtent de faire leurs insulines, et comme ça, elles perdent du poids. Ah oui, c'est sûr. Ça peut être une bonne solution à court terme, mais au final, vous allez mettre votre santé en danger. Parce que le risque de ne plus faire les insulines, effectivement, et en particulier, en général, c'est les diabétiques de type 1, chez qui ça marche le mieux, n'est-ce pas, c'est de se mettre en acidocétose. Donc, vous risquez, en fait, votre santé pour 2 ou 3 kilos. Donc, il vaut mieux faire plutôt attention à ce qu'on mange, faire un peu plus d'activité physique que d'éviter de se mettre en hyperglycémie en permanence. Alors, Ars me demande, y a-t-il une dose max d'insuline à ne pas dépasser? Alors, en vrai, non. Mais tout ce qu'on sait, c'est plus on augmente la dose, moins elle est efficace, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on est à 40, 50, quand on a 50 unités d'insuline, on peut monter plus haut. Mais il ne faut pas monter de 50 à 51. C'est-à-dire que 50 unités ou 55 unités d'insuline, souvent, ça ne va pas faire de différence. Après, effectivement, quand on dépasse les 80, c'est qu'il faut faire probablement autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, l'insuline, elle agit plus. Donc oui, une dose max, pas réellement. Mais il faut pas hésiter à augmenter. Parce que des fois, quand on me demande une dose max, les gens ils me disent « Oh là là, je suis à 20 unités d'insuline, c'est beaucoup ». En réalité, non, vous pouvez l'augmenter. Mais quand on commence à dépasser les 60 unités d'insuline, il faut voir avec le médecin traitant ou l'endocrinologue s'il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres choses qu'on peut voir pour expliquer ça. Bon, on me signale qu'il reste peu beaucoup de temps. Est-ce que j'ai une dernière question? Est-ce qu'avant l'insuline, il faut aller au max des ADO? Alors, tout dépend, comme on a dit tout à l'heure, des cas. Donc oui, à la base, si tout va bien, il faut quand même aller au maximum des ADO pour voir s'ils ne fonctionnent plus. Donc les ADO, c'est les antidiabétiques oraux, donc c'est les comprimés. Donc si les comprimés sont au maximum, là, on est obligé de passer à l'insuline. Si les comprimés ne sont pas au maximum, il vaut mieux déjà optimiser le traitement par cachet avant de passer à l'insuline. Et on passe à l'insuline que si vraiment on en a besoin. Donc je pense qu'on en a terminé au niveau du temps. Donc je vous remercie pour vos participations, puisque vous êtes plusieurs, et je vous dis peut-être à une prochaine fois.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.